Le podcast L'Iceberg, le show qui présente les côtés méconnus des Inuits du cégep de Grande Bay et met en lumière les activités de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Entrevues, discussions, reportages, nouvelles inédites. Chaque semaine, nos collaborateurs et invités traiteront de sujets pertinents et intéressants. L'entrevue de la semaine de Guy Lussier, la chronique d'Amélie Delobel, Gariepi en échappée avec Richard Gariepi et la planète junior 3A avec Marco Bernard. L'Iceberg, la référence des partisans des Inuits du cégep de Grande Bay et des amateurs de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Bonsoir tout le monde, M&M avec vous pour cette autre présentation hebdomadaire du podcast L'Iceberg. Cette semaine, nous avons deux belles surprises pour vous. La première, même si on a parlé un petit peu la semaine dernière, Richard va s'entretenir avec le directeur des sports au quotidien La Voix de l'Est, Michel Tassé. Ces deux interlocuteurs vont discuter d'événements qui se sont déroulés au cours des dernières semaines, soit avec les Inuits ou au travers de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Nous allons également entendre l'entrevue de Guy Lussier. Marco va venir nous parler des records méconnus dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et pour notre deuxième surprise, bien, la voici, mesdames et messieurs, elle fait son entrée en scène au podcast L'Iceberg, Amélie Delobel, avec sa chronique Au-delà de l'athlète. On va lui laisser l'opportunité de vous expliquer en quoi va consister ces chroniques.
On débute cet épisode du podcast L'Iceberg avec une nouvelle finalement qui se joint à nous, Amélie Delobel. Bienvenue, Amélie. Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Très bien. Hey, je suis sûr que je parle au nom de tous les autres collaborateurs puis tous les gens qui nous écoutent. On est super contents que tu sois finalement arrivé parmi nous. On sait que tu as passé des superbes de belles vacances avec ton copain à Tokyo, au Japon. Un jour, peut-être, durant une de tes chroniques, ben, tu nous parleras de ça. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu puisses faire une introduction un peu de qu'est-ce que tu vas amener au podcast afin que nos spectateurs puissent avoir une idée de qu'est-ce que tu vas apporter.
Oui, donc pour ma chronique, on a eu l'idée, en fait, avec toute l'équipe, de faire une chronique un peu différente, justement, de tout le monde, ajouter un petit quelque chose un peu plus personnel. Alors, on est habitué de connaître les joueurs, justement, sur leur performance sur la patinoire et tout. Mais là, on voulait vraiment donner comme un petit quelque chose que les gens ne sont pas habitués de voir chez les joueurs. Donc, c'est pour ça que ma chronique, j'ai décidé de l'appeler « Au-delà de l'athlète ». Et justement, j'ai décidé, plutôt que de poser des questions directement aux joueurs, à un de leurs membres de leur entourage. Alors, tout au long des chroniques, ça va être soit avec leur mère, un parent, un frère, une sœur, leur blonde. Alors, vraiment avoir leur point de vue à eux sur, justement, un des joueurs des Inuits. Alors, vraiment, on va apprendre à les connaître, disons, sous un autre angle.
Oui, c'est super. Ça va être super intéressant, ça, Amélie. J'ai bien hâte de pouvoir d'entendre ça au cours des semaines, là, cette différente perspective-là que les personnes peuvent avoir dans l'entourage des joueurs qui sont parmi de la Ligue Junior 3A. Ça va être un bon petit coup d'œil. Fait que, ben, ta première chronique, parle-nous de ça, là. Je te laisse aller. Part.
C'est bon. Alors, pour ma première chronique, j'ai décidé de discuter avec Daphné Lapointe, donc qui est la blonde d'Anthony Chicoine, celui qu'on reconnaît comme étant le numéro 17 avec les Inuits, donc assistant capitaine, troisième année avec les Inuits. Alors, on le connaît peut-être plus pour ses performances sur la patinoire, mais justement, je voulais en savoir un peu plus sur lui personnellement et aussi justement sur sa relation avec sa blonde. Alors, la première question que j'ai demandé justement à sa copine, c'était dans le fond les passions d'Anthony, excepté bien évidemment le hockey. Okay. Et ce qu'elle m'a appris plutôt, c'était que justement Anthony effectue actuellement un DEP en charpenterie menuiserie parce qu'il a toujours aimé ça, en fait, justement faire des petits projets, faire des meubles. Sinon, c'est un gars qui aime beaucoup les activités extérieures comme la pêche ou juste justement passer du temps dehors avec ses frères autour d'un feu, mais ça reste quand même que sa plus grande passion, justement, comme elle tenait vraiment à le préciser que c'était quand même le hockey. Et par la suite, justement, je voulais savoir un peu plus quel genre de personne qu'il était. Et sa blonde le décrit, j'ai trouvé ça cute, comme étant un gros nounours. Alors, un gars, justement, qui aime ça faire plaisir aux gens, qui est toujours là pour eux, qui, justement, qui aime ça apporter du bonheur aux gens, donc toujours quelqu'un de positif. Alors, bien évidemment, c'est agréable de se tenir avec cette personne. Alors, une personne très agréable à côtoyer et elle le considère aussi comme étant une personne très drôle. Alors, on pourrait peut-être poser la question assez
compliquée.
Et en termes donc de leur relation, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont ensemble. Puis justement, je voulais savoir s'ils avaient des projets futurs. Puis alors pour le moment, c'est un peu mis sur pause parce que justement, Anthony, il lui reste encore un an et demi à faire à son DEP. De son côté, elle est aux études au Cégep. Par la suite, va poursuivre à l'université. Donc, elle en a encore pour quand même plusieurs années. Mais donc, c'est pour ça, ils ont déjà des idées, mais justement, rien de très concret pour le moment. Sinon, justement, j'avais remarqué qu'ils avaient un nouveau membre dans leur famille. Alors, un petit chiot qu'ils ont adopté. Alors, un petit bébé husky qui a maintenant 5 mois du nom de Buck. Alors, ils sont tombés en amour avec lui quand ils ont visité un élevage. Alors, un nouveau petit membre de la famille des Chicoines Lapointe.
C'est de même, ça commence souvent dans les familles. On se pratique avec un animal, puis après ça, on ne sait pas.
Exactement. Alors, on verra ce que l'avenir leur réserve, mais c'était très intéressant justement de savoir cette partie-là, justement, qu'on connaît beaucoup moins d'Anthony Chicoine.
Ben oui, wow, c'est super intéressant. Ben là, je suis sûr que quand on va le croiser, on va pouvoir l'agacer un petit peu. Hein? Un gros nounours un petit peu sensible, c'est bon, mais c'est un manuel, puis ça paraît à la glace. Hein? C'est quand même quelqu'un qui aime, qui a pas froid, lui, dropper les gants, il a pas trop de misère avec ça. Fait que c'est un gars qui aime ça de servir ses mains, effectivement. Hey, super, vraiment intéressant cet angle-là que tu nous amènes, Amélie. Qu'est-ce que, as-tu une idée ou as-tu déjà préparé? Qu'est-ce que tu vas avoir pour nous la semaine prochaine?
Oui, alors la semaine prochaine, je vais en fait vous donner les réponses de Douglas Risk. Alors, j'ai discuté avec le grand-père de Charlie Risk. Alors, ça va être quand même très intéressant justement. On va surtout, j'ai surtout discuté avec lui justement de l'adaptation de son petit-fils dans un milieu francophone. Alors, ça va être assez intéressant, je pense, comme entrevue.
Wow! J'ai vraiment hâte d'entendre ça, étant donné que je suis anglophone de nature. Là, j'ai hâte de voir comment est-ce que... Mais là, les questions, les as-tu posées en anglais ou en français au grand-père?
En anglais.
En anglais?
Oui.
Ah, ben, on va pouvoir pratiquer ton anglais également, Émilie. Ah, écoute, j'ai bien hâte de pouvoir entendre ça. Garde, je te souhaite une excellente semaine, Émilie. On est super content que tu sois finalement arrivé avec nous. Puis, comme on dit en anglais, looking forward to hearing you next week. Bye-bye.
Bye-bye.
Voici maintenant le détenteur du plus grand nombre d'échappés, Richard Gariepé. Salut, mon Richard, comment ça va?
Ouais, quelle belle entrée en matière. Ça va bien?
Super bien. Hey, on enchaîne tout de suite, mon Richard, avec ce qu'on a vécu en fin de semaine dernière, deux victoires de nos Inuks.
Ben oui, on se répète, mais ça continue à aller bien. J'ai vendredi à domicile, ça n'a pas été facile, beaucoup d'adversité contre Saint-Jérôme. Mais l'équipe est revenue de l'arrière, puis encore une fois, une équipe championne trouve des façons de gagner. Puis avec l'homme des grandes occasions, William Leblanc qui a inscrit le but en prolongation. Selon mon tableau, c'est la foule vraiment minuscule. Là. Je me questionne encore sur le fait qu'il y avait 500 spectateurs, mais en tout cas, on va passer outre cette observation-là. Puis, ensuite, dimanche à Chambly, grosse troisième période. Ouais. Encore une fois, je pense que la profondeur de l'équipe a fait la différence dimanche.
Oui, effectivement. Tu sais, puis, comme tu as mentionné, l'adversité qu'ils ont connue vendredi soir contre Saint-Jérôme, c'est juste bon, ça, parce que des fois, les gars... On sait tout, hein, qu'une équipe roule sur l'or, tout va bien, mais on commence à prendre les choses un petit peu plus easy, on donne un petit peu moins d'efforts. Donc, un peu d'adversité, une fois de temps en temps, ça va faire grouiller les fesses des gars un petit peu.
Oui, bien, effectivement, en fait, poursuivre ce que tu viens de dire, c'est qu'évidemment, les signaux sont attendus de pied ferme un peu partout maintenant.
Oui.
Tu sais, les équipes qui ne perdent pas souvent, comme Green Bay, Princeville, Terrebonne, je pense que les équipes les attendent vraiment. C'est vraiment un challenge pour chacune des équipes d'affronter ces équipes-là, ces trois équipes-là. Donc, je pense que l'adversité va y en avoir de plus en plus.
Mais effectivement, effectivement. Fait que si on regarde qu'est-ce qui s'en vient, hey, deux beaux matchs en fin de semaine.
ça va être magnifique. Ça, c'est du bonbon, là.
Oui, là. En tant qu'amateur de hockey, si tu veux venir voir une belle fin de semaine de hockey, là, vendredi soir, lorsqu'on va recevoir la visite des Cobas de Terrebonne, puis dimanche après-midi, quand Longueuil va se présenter à Granby, ça s'annonce bien.
Écoute, trois grandes organisations, Granby, Longueuil, Terrebonne, trois organisations qui saillissent, qui ne s'envoient pas de, de cadeaux à Noël. Là.
Effectivement.
Puis, on le sait, là, c'est réciproque. Là. Granby haït deux autres, puis deux autres haïssent. Puis probablement que Longueuil avec Terrebonne, c'est la même chose. Probablement, c'est la même chose. Donc, oui, ça va être deux grands matchs de hockey, même si c'est tôt en saison, comme dirait Coach Bosch, ça va être du hockey de mois d'octobre, mais quand même, c'est vraiment, ça va être relevé en termes d'émotion. Et même au niveau des partisans, tu sais, on se le cachera pas, là. Tout le monde sait à Granby, les deux équipes qui se plaignent le plus concernant les Inuks auprès de la Ligue, c'est qui, Marc?
Après moi,
on le sait pas mal. Là,
ben oui, hein? Effectivement. Hein?
C'est de Terrebonne puis Longueuil. Puis c'est de bonne guerre. Là. Je dis pas. Puis je dis pas que les Inuks se plaignent jamais. Là. C'est pas ça que je dis non plus. Là.
Ben oui.
Mais bon. Fait que, puis c'est médiatisé. Autant Pierre Petroni là-bas, qui est directeur général, ou Robert Dubuc, et puis Petroni qui a coaché longtemps à Longueuil, ou Dubuc, qui est le grand Manitou à Terrebonne. Il s'en cache pas. Il emmène large. Puis. Il sert beaucoup des médias aussi. Puis ça, ben, il y a des partisans à Granby qui ont, ça peut irriter un peu. J'ai même reçu des courriels, moi. C'est assez rare là, que autant. J'en ai reçu une dizaine là, juste cette semaine de gens qui me demandaient si c'était possible. Parce qu'ils disaient que ça serait un genre de week-end des plaignards, des broyards, le week-end de la sucette. J'en ai lu toutes les sortes. Puis ils m'ont demandé si c'était possible. Il y en a même qui envisageaient pour arriver au match à l'un des deux ou même aux deux avec une sucette puis aller s'installer dans le giron près du banc de l'équipe visiteur. Bon, après avoir esquissé un sourire puis ricaner quelques secondes, je me suis dit, regarde, il n'y a pas de règlement, en fait, dans la ligue qui empêche un spectateur de se présenter avec une suce. Là. Mais s'ils sont en mesure de demander à le petit dernier s'il veut lui passer le suce, sa suce, c'est-à-dire, ben regarde, qu'il s'arrange avec. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va avoir une dent contre eux autres, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de dent encore.
Non, il n'y a pas de dent encore. Hey, Richard, il ne reste plus grand temps, là, mais on voit bien que les amateurs ont de l'imagination tant qu'à les rivalités.
Ça fait juste imaginer un peu le genre de rivalité qu'il y a vraiment entre les deux équipes. C'est pas compliqué. On les haït, ils nous haïssent. Bon, c'est correct de même. C'est bon.
Ouais, ouais, ça fait pour un bon spectacle, ça, Patrick. OK, Fakal, on enchaîne maintenant avec ton entrevue hebdomadaire, Gary Épée en échappé. Puis cette semaine, tu as un invité spécial, hein?
Ben oui, on va donner un break à Patrice cette semaine. En fait, on va se tourner du côté de Michel Tassé, qui est directeur des sports à la Voix de l'Est. En fait, j'ai rencontré Michel, puis ça va vraiment être intéressant. Là.
Ben regarde, on écoute ce qu'il a dit.
Parfait.
Alors, bienvenue à Guerrier Pie en échappé. Alors, cette semaine, j'ai un invité de marque, mon bon ami Michel Tassé, directeur des sports à la Voix de l'Est. Salut Michel.
Salut Richard.
Alors Michel, on va un peu discuter de ce qui se passe présentement avec les Inuks et globalement dans la saison. Si on commence avec les Inuks, toi qui as vécu, qui as suivi religieusement les activités de l'équipe là depuis plusieurs saisons, si on compare l'édition de cette année avec ce qui s'est, mettons les deux, trois dernières éditions, où les Inuks ont toujours été très, très, très solides, quelle comparaison tu pourrais apporter là, à ce niveau-là?
Ben moi, je pense que la seule comparaison qu'on peut faire avec les Inuks de cette année, Richard, c'est se reporter à 2013-2014, l'année de la Coupe Napa. Parce qu'au cours des dernières saisons, effectivement, ça a toujours été des bonnes campagnes pour les Inuks, mais dominant comme ça, il faut vraiment se rapporter à l'année de la Coupe Napa 2013-2014. Et encore là, l'équipe avait connu un super début de saison, mais jamais comme l'édition de cette année. Moi, je suis pas nécessairement surpris de voir les Inuks bien performer parce que lorsque le camp d'entraînement s'est terminé, qu'on a vu l'alignement de cette équipe-là, l'alignement que Patrice Bosch avait réussi à monter, c'était clair que ça allait être une bonne équipe de hockey. Mais voir l'équipe dominer à ce point, ça, c'est étonnant. 10 victoires, une défaite avant le match contre les Panthères de Saint-Jérôme. Et encore là, il y a eu une défaite, mais c'était lors d'un week-end de 3-3. Ça aurait été miraculeux que l'équipe gagne ces trois matchs-là. Moi, je suis étonné par la façon dont les Inuks dominent cette année.
Et puis, en plus, oui, c'est étonnant. Je le suis aussi parce que moi, je lis toujours, je manque jamais tes articles, Michel. Puis, je me souviens que avant, pendant la saison morte, un petit peu avant le début du camp, toi, comme plusieurs autres, tout le monde était un petit peu... on se demandait surtout du côté de la défensive. Il y avait eu des grosses pertes. Puis, regarde, il faut vraiment dire ce qu'il faut dire, là, c'est que Patrice Bosch a fait un travail colossal.
Patrice Bosch a eu un gros été. C'est drôle parce que présentement, on parle souvent de Marc Bergevin qui a eu un bon été, qui est en train de reconstruire le Canadien. Mais Bosch a eu un été absolument exceptionnel. Lorsque la saison dernière s'est terminée, moi, depuis que les Inuits ont gagné la Coupe en 2014, je m'attends toujours à une... À un moment donné, je me dis, c'est inévitable, c'est du hockey junior. La mauvaise saison où est-ce que l'équipe ne jouera pas 500, va avoir de la misère à faire les séries, tout ça, ça va finir par arriver. Ça arrive jamais, Richard. À chaque année, les Inuits sont compétitifs. Et je pensais vraiment qu'on s'enlignait, que ça regardait pour cette saison difficile-là cette année. Mais là, Bosch a sorti des lapins de son chapeau. Il allait chercher les défenseurs ici et là, dans les Maritimes, dans l'Ouest, des transactions et puis tout ça. Et finalement, la défensive, qui devait être le point faible de l'équipe, qu'on se demandait qui est-ce qui allait faire le travail à la ligne bleue, ben, c'est la force de cette équipe-là. Quand tu regardes des gars comme Risk, des gars comme Lavoie, qui est-ce qu'il y a Lampron, Vincent Lampron, qui arrive du junior majeur également, Nadeau, qui a une saison exceptionnelle, ben, je veux dire, on parle même pas d'un Big Three, on parle d'un Big Four présentement.
Sans oublier les jeunes qui font un solide job.
Oui, les jeunes aussi qui s'en viennent, qui poussent. Oui, effectivement, chapeau à Patrice Bosch pour le gros été qu'il a connu.
Effectivement, et c'est absolument vrai ce que tu dis que les Inuits, saison après saison, ça n'a pas pris de temps, là. Les Inuits sont arrivés en 2005. La première année, c'était l'équipe d'expansion, c'est qui arrivait de Quaticook, qui avait raté les séries, mais après ça, ça a déjà commencé à monter et je crois que ça fait quelque chose comme 8 ans consécutives là, où est-ce que c'est vraiment très, très, très solide. Puis ça, c'est tout à l'honneur de l'organisation. Et dans la Ligue, Terrebonne, Longueuil, Granby sont toujours là. Ces équipes-là sont condamnées à gagner. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ces équipes-là sont toujours en haut? Même eux autres, le fameux cycle du niveau junior ne connaissent pas ça. Quoique le cycle est moins apparent au niveau junior 3 que dans le junior majeur, mais... Qu'est-ce qui explique que ces équipes-là ont la bonne recette, que les autres la cherchent plus, mettons?
Je pense que c'est simplement, Richard, une question de stabilité. Tu regardes les équipes que tu viens de nommer, qui est-ce qui dirige ces équipes-là? Ben, c'est toujours le même monde, année après année. Regarde Granby, Dave Lapierre était là longtemps. S'il a quitté, c'est parce qu'il y a eu une promotion à un moment donné dans le junior majeur. Patrice Bosch là, est là depuis déjà quelques années. Terrebonne, on sait qu'année après année, Bob Dubuc va être là. Longueuil, c'est toujours l'administration Pietroni, même s'il n'est plus derrière le banc cette année. Mais tu regardes d'autres équipes. Je regardais la semaine passée, qu'est-ce qui était là? Lac-Saint-Louis, déjà, il y a eu un changement d'entraîneur, je pense, après 3 semaines. Montréal-Nord, ça change tout le temps. Tu as un paquet d'organisations où est-ce que ça bouge, ça change. Aussitôt qu'on en perd 4 de suite, on change le coach, on arrive avec une nouvelle personne. Alors, l'élément stabilité, là, je pense que c'est vraiment... Lorsqu'on a la bonne personne dans cette ligue-là, on essaie de la traiter comme du monde. Et puis, il faut rester avec les bonnes personnes. Et c'est ce que les Inuits font. Tu regardes au niveau du nombre d'entraîneurs, la direction de l'équipe est sensiblement toujours la même. Ça prend un gros événement pour qu'on change d'entraîneur à Granby, qu'on change de direction, soit que la personne s'en va dans le junior majeur. On l'a vu par le passé avec Lapierre, mais on reste avec les mêmes gens. Alors la mentalité s'incruste dans l'organisation, on suit un plan de match et c'est ce qui fait la différence. À mon avis, c'est clairement ça.
Et si on demeure, on parle de la Ligue aussi au niveau du classement cette année, au niveau du fonctionnement, il y a plus de division. En fait, c'est classement général, 13 équipes, exact, 4 fois contre chaque équipe. Qu'est-ce que tu penses de ça?
J'aime pas vraiment l'idée de 12 équipes sur 13 qui font les séries parce que ça donne un peu l'impression d'être un immense camp d'entraînement. Écoute, tout le monde va faire les séries sauf une. on peut se permettre des longues séquences d'insuccès, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on est déjà assuré de faire les séries. C'est quoi? Ça va jouer à la fin entre des équipes comme Montréal-Nord, Gatineau, Lac-Saint-Louis pour la 12e et dernière place en série. La formule des séries, là, on commence avec une espèce de tournoi à la ronde.
Ça, c'est dangereux. C'est dangereux aussi pour les bonnes équipes.
C'est dangereux parce que c'est, on a le spectre des Bisons ici à Granby.
Exactement.
86-87, que ça avait mal viré lors du tournoi à la ronde qui faisait le premier tour. Deux matchs. Qu'est-ce qui peut arriver? T'as beau jeu contre une équipe ordinaire. Si ça, ça donne que de l'autre côté, le gardien est super hot, tout peut tomber en l'espace de 48 heures. Donc, c'est une formule. Ça risque d'être excitant rendu là, mais très dangereux. Moi, je prends l'amour avec la nouvelle formule, là, c'est clair. Le trou d'équipe en série important.
Et là-dessus, je suis absolument d'accord avec toi. On revient au Sinouk. Il me vient à William Leblanc. Tout le monde en parle. William trône en haut des marqueurs de la Ligue. C'est un marqueur naturel. J'ai regardé au rythme où il produit présentement. Il finirait l'année avec 70 buts et quelque chose comme 122 points. Ce qui serait probablement, en termes de buts, c'est nettement le premier de l'histoire des Inuits. En termes de points, il y a peut-être Marchand là qui pouvait s'en approcher. Mais qu'est-ce que tu penses de William Leblanc, de sa saison actuelle? Et est-ce que tu crois, évidemment, on lui souhaite pas de blessure parce que pour avoir de telles statistiques là, à 70 buts, un joueur ne doit pas être blessé, mais est-ce que tu crois que c'est des plateaux qu'il pourrait atteindre?
Moi, je pense que tout est possible dans le cas de William Leblanc. Moi, je me rappelle à la fin de la saison passée, Richard, quand Patrice Bosch faisait son bilan, il m'avait dit écoute, il dit l'année prochaine, William Leblanc, ça va être assurément un des 5 meilleurs joueurs de cette ligue-là. Je pense que 5, on peut réduire à 4, à 3. Je pense que c'est clairement un des 2 à 3 meilleurs joueurs de cette ligue-là au classement présentement. Et je ne serais pas étonné moi du tout qu'après les fêtes, il s'impose comme le meilleur joueur de cette ligue-là. William Leblanc, écoute, c'est un talent naturel au niveau junior 3. Il peut faire ce qu'il veut sur une patinoire. Vendredi passé, le dernier match à Green Bay, lorsque la prolongation a commencé et qu'on a vu Patrice Bosch utiliser et surutiliser William Leblanc, on se disait, c'est lui qui va finir par la mettre dedans, c'est lui qui va faire la différence, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et en plus, cette année, il n'était pas mal entouré l'année passée, mais il est particulièrement bien entouré cette année. Là. Tu regardes les joueurs autour de lui, là, c'est d'autres gros talents. Alors oui, au niveau des objectifs, je pense que tout est possible pour lui. La marque de bonne saison d'Éric Lontain est sérieusement menacée. Les points également. À combien est-ce qu'il va s'arrêter? 28 points après 11 matchs, toujours avant le match contre les Panthères de Saint-Jérôme. Est-ce que ça va s'arrêter à 100? Est-ce que ça va être 110? Je pense que tout est possible pour lui à partir du moment où il reste en santé.
Alors oui, effectivement, c'est. Je pense qu'il vaut le prix d'admission lui seul. Là, alors, maintenant, j'ai mon avant-dernière question parce que ma dernière, elle va être assez pointue. Mais mon avant-dernière, c'est quelles seraient tes équipes surprises et tes équipes qui t'ont déçu depuis le début de la saison?
Ben moi, mais les deux équipes qui m'étonnent le plus, Richard, à part les Inuits, là, qu'on va mettre en parenthèse, c'est clairement le Titan de Princeville. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce que cette équipe-là performe bien cette année, mais je m'attendais pas à ce qu'ils jouent, qu'ils amassent autant de points, de victoires et tout ça. Moi, je suis content pour Princeville parce que c'est une des équipes en région à travers cette ligue-là. Il n'y en a pas une tonne. Je pense qu'au fil des ans, ça a toujours été une bonne organisation. C'est une organisation relativement stable. Je dis bien relativement stable. Alors, je suis content moi, pour les gens de Princeville, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fonctionnent comme ça. Montréal-Est, tu regardes le classement, là, quatrième au classement général, 3 défaites seulement après 10 matchs. Ça aussi, ça m'étonne. Très bon gardien. On l'a vu il y a de ça quelques semaines ici à Granby. C'est lui qui a volé les Inuits cette
après-midi. Absolument, quel match.
Oui, absolument. Donc, Montréal-Est, il va falloir surveiller s'ils vont être capables de maintenir le rythme. Au niveau des déceptions, moi, je suis toujours étonné quand je vois le Collège français qui joue à peine pour 500. Ouais. Ça arrive quoi, une fois par 12 ans, à peu près?
C'est ça.
Saint-Jérôme, qui joue même pas pour 500, ça me déçoit. Ce seraient les deux équipes. Peut-être Valleyfield également. On s'attendait à un meilleur début de saison de Valleyfield.
Tu sais, pour Longueuil, t'as absolument raison. C'est qu'on 500, là, il y a rien de déshonorant là à ce statut de la saison, mais on est tellement habitué de voir en haut du classement que c'est vrai que ça frappe un peu l'imaginaire.
On est quelle date aujourd'hui? On est au mois d'octobre, mi-octobre à peu près, là. Mais dans cette ligue-là, comme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, remarque, L'important, c'est quelle équipe on a le 10 janvier.
Oh, effectivement.
Parce que d'ici là, on peut gagner, on peut encore plus cette année avec un classement général, parce que tout le monde fait des séries. L'important, c'est quelles seront les éditions, quels seront les aliments des équipes le 10 janvier. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment construire et dire, bon, ben là, on s'en va jusqu'au bout.
Donc. Et c'est d'autant plus vrai avec la nouvelle formule de 12 équipes sur 13. Comme tu dis, c'est un camp d'entraînement là, pendant 6 mois là, à peu près.
Ça favorise pas vraiment l'intérêt présentement. Là. Ça, c'est clair.
OK.
C'est avec Granby parce que l'équipe va bien, mais ailleurs, là, tu te bats pourquoi là, présentement? Là, pour pas grand-chose.
Ah non, là-dessus, c'est tu frappes absolument dans le mille en espérant que l'intérêt demeure là, du côté des spectateurs, du côté des fans jusqu'en février, jusqu'en mars. Donc, ma dernière question, en fait, c'était... bon, je sais qu'on a parlé en long et en large de l'affaire Martel, les Inuits qui ont eu gain de cause en appel. C'est toi qui as sorti la nouvelle le premier. Ça avait créé beaucoup de vagues. Certains ont pris un méchant bouillon. disons que, en fait, ce que je voulais... Le commissaire Laporte a même... mise en garde, a même était pas content parce que ça devait pas sortir à nulle part. Qu'est-ce qui explique que Michel Tassé de la Voix de l'Est ait été mis au parfum de cette histoire-là?
C'est une bonne question, je sais pas trop comment répondre, Richard. Écoute, moi j'étais Lisino que jouait un vendredi soir à Granby. Et puis, j'étais pas au match ce soir-là parce que j'étais au dernier programme de course à l'autodrome de la saison. Et puis, j'ai reçu un appel sur mon cellulaire de quelqu'un d'une équipe de la Ligue qui m'a informé d'une situation concernant un joueur inadmissible chez les Inuits. Je suis allé, j'ai parlé évidemment avec Patrice Bosch, j'ai parlé avec le commissaire Laporte qui m'a tout expliqué en détail qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé moi? Parce qu'il n'y a pas juste une équipe qui a communiqué avec moi, il y en a eu d'autres. C'est une bonne question. Peut-être parce qu'il n'y a pas une tonne de quotidiens qui couvrent la Ligue de hockey junior 3A. Je suis peut-être celui qui parle le plus de la Ligue là, en bout de ligne. Alors, quand il se passe quelque chose, on a peut-être le réflexe de m'appeler, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, le commissaire Laporte n'était pas content. Je sais qu'il y a des équipes qui ont été rabrouées par rapport à ça. De voir qu'une situation à l'interne se retrouve en plein jour dans les médias d'information, ça n'a pas fait l'affaire du tout du commissaire Laporte. Et je peux comprendre, parce que moi c'est clair que s'il n'y a pas quelqu'un à travers la Ligue qui m'avait appelé en premier, ensuite en deuxième et en troisième, j'aurais jamais été au fait de la situation. C'est pas les Inuits qui m'auraient appelé pour me dire « Hey Michel, on a un problème de joueur inadmissible, ça se peut qu'on perde deux matchs. » Donc, c'est parti de l'interne, et je comprends très bien le joueur Laporte de ne pas avoir été d'accord avec ça. En même temps, je dois souligner le fait que le commissaire a été très respectueux de mon travail dans ce dossier-là. Jamais il a tenté de me dire « Faut pas t'écrire ça ou quoi que ce soit, ça n'a pas de l'allure, c'est de la régie interne. » Il était conscient que le journaliste avait l'information. Il était conscient que c'était une information qui méritait d'être divulguée au public. Pas pour planter, blasser les yeux ou quoi que ce soit. Quand on parle d'un cas de joueur inadmissible, c'est normal qu'on en parle.
Absolument. Et je pense que les gens doivent comprendre que ton travail, c'est journaliste. Mm-hmm. T'es pas là pour promouvoir les Inuits. T'es là pour divulguer une nouvelle. Et j'aurais fait absolument la même chose que toi. C'est tout à fait normal que t'aies sorti cette nouvelle-là.
Puis la question, c'était pas de, comme je disais tantôt, de planter, de blaster les Inuits. C'est simplement de rapporter une situation. Il y avait un cas d'une possibilité de joueur inadmissible. Les Inuits pouvaient perdre deux matchs à cause de ça. Ils se sont défendus, ils ont gagné leur point. Parfait, aucun problème avec ça. Moi, j'ai jamais jugé les Inuits dans ce dossier-là. J'ai seulement rapporté l'information et elle méritait d'être rapportée. Qu'importe ce que vous en pensez, même certains dirigeants de l'équipe.
Ben merci de l'explication. Et tantôt, tu disais que c'est des équipes qui t'avaient appelé. Est-ce que certaines équipes t'appellent plus souvent que d'autres?
Ah, il y a des équipes avec lesquelles on a des meilleurs contacts que d'autres, c'est sûr.
C'est bien dit. D'accord. Alors, merci beaucoup, Michel. Ce fut très, très agréable. Trop court parce qu'on aurait pu jaser comme ça encore pendant une demi-heure de temps. Mais on se reprendra, c'est sûr. Et je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se reparle.
Toujours un plaisir, Richard.
Parfait, merci.
Wow, Richard, excellente entrevue avec Michel Tassé. Hein. On voit que Michel, il a du métier dans le corps, hein, pas juste avec sa plume, au micro aussi, parce qu'on peut l'entendre régulièrement à M105. Hein.
Effectivement, puis Michel, tu sais, récolte quand même les prix ici et là comme meilleur journaliste, tu sais, que ce soit à l'Autodrome, que ce soit avec dans les Junior 3A. C'est un journaliste très crédible. Alors, c'est toujours, c'est un bon ami, puis c'est aussi toujours le fun de discuter sport, particulièrement hockey et courses automobiles avec, et baseball également avec Michel.
Ben oui, effectivement. C'est un bon collaborateur qu'on a avec nous, puis c'est le fun de pouvoir que toi, tu puisses l'interviewer à l'occasion comme ça. Mais on a oublié une chose cette semaine, mon Richard, ton péronisme de la semaine.
En fait, évidemment, ça, on peut pas partir sans en parler. Juste pour faire le lien avec les deux gros matchs avec nos grands amis du week-end, les vieux routiers que sont
Pierre Petroni.
Robert Dubuc et Pierre Petroni. Ben, tu sais, quand même qu'on essaierait de les déconcentrer, ceux-là, ça va être très, très difficile parce que on peut bien essayer, mais comme dirait Jean Perron, on n'apprend pas une vieille autruche à faire la grimace.
Là-dessus, Richard, je te souhaite une bonne semaine. On s'en reparle la semaine prochaine.
C'est bon, bye.
On poursuit maintenant avec notre entrevue hebdomadaire avec Marco Bernard. Salut, Marco.
Salut, Marc. Ça va bien?
Super bien. Toi, mon ami, passez une belle fin de semaine.
Oui, ça va bien. Oui, super, super fin de semaine.
Comme on avait parlé un peu la semaine dernière, cette semaine, tu voulais toucher un peu ce qui était par les records de ligue.
Oui, ben en fait, en mise en contexte, la semaine dernière, on a subi notre première défaite de la saison. Présentement, notre fiche, c'est 10 victoires et une défaite. Le plus grand nombre de matchs sans défaite pour un début de saison dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec est de 11.
Wow.
Donc, au moment où on se parle, n'eût été de cette défaite-là qu'on a eue à 4-3 contre Montréal-Est, on serait au point qu'on aurait eu égalé ce record-là avec 11 matchs sans défaite en début de saison. Fait que je trouvais ça intéressant parce que en allant jeter un coup d'œil à savoir c'était quoi justement ce record-là pour voir un peu où se constituait par rapport à ça, ben j'ai vu certains records qui étaient vraiment impressionnants, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être pour les gens de voir un peu quels sont les records qui sortent de l'ordinaire du moins dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Donc, le moins de défaites en une saison, c'est le Collège français de Longueuil, édition 88-89, qui ont eu ça.
Je te laisse deviner,
Marc, le moins de défaites en une saison, je te laisse deviner.
Aïe, c'est une saison, j'imagine, des alentours de 45 parties comme aujourd'hui.
C'est 50, je pense que c'est 50 matchs. Là, mais,
50 ouais. matchs? 10 défaites?
5. C'est pas beaucoup de défaites, ça.
Oh
et le plus grand nombre de victoires dans une saison avec 54 parties, faut considérer aussi les matchs nuls et tout ça à l'intérieur de ça, mais le plus grand nombre de victoires, c'est les Panthères de Saint-Jérôme, 2006-2007, 54 parties. Alors, je te laisse.
Sac à patate, ouais, OK. Là, j'étais ici à cette époque-là, là, j'étais avec les Inuits, aïe, aïe.
C'était notre deuxième saison.
40. OK. Deuxième saison des Inuits, ça veut dire moi, c'était ma première avec vous autres. Oh, je prends un guess. 43.
42 victoires.
Oh, sac à patate.
c'est assez impressionnant. C'est aussi 42 victoires sur 54 parties. Là. C'est assez impressionnant.
Ben, ouais.
Quelques petits records cocasses aussi. Le plus grand nombre de buts alloués par une équipe en une saison de 48 parties.
Oh, sac à patate. On sait à la base que dans le junior, il y a quand même relativement beaucoup de buts qui peuvent se compter. 44 parties. 48 parties. Je vais dire 150.
Le plus grand nombre de buts, on est à 405.
Aïe, aïe!
C'est une moyenne de 8,2 buts alloués par match. En moyenne, c'est incroyable. C'est des Lyons Pierrefonds.
Allez, Gaulle, on veut du rubber.
On comprendra pourquoi ils ne sont plus là.
Ouais.
Le plus de buts comptés, c'est les Panthères de Saint-Jérôme qui ont ce record-là.
Okay.
En 58 parties, 373 buts pour une moyenne de 6,43 buts par match.
Oh,
ça,
okay.
C'est du but au pied carré, mon ami. Ensuite, il y a le plus grand nombre de victoires consécutives. Le National de Joliette, avec notre commissaire, M. Laporte, à la barre, en 94-95, le plus grand nombre de victoires consécutives. Vas-y.
Ben, si le plus grand nombre de victoires en début de saison était
durant la saison,
Oh, je te dirais que ça doit... je dois dire... t'as un chiffre chanceux, 13.
22.
Aïe, aïe.
22 victoires consécutives.
L'ambiance doit être le fun dans la chambre.
Ouais. Les Condors de Kahnawake 2001-2002, le plus de matchs sans victoire.
Oh, OK, OK. Eux autres, c'était assez beaucoup. Ceux-là, là, j'étais pas là dans cette époque-là. Mais d'après moi, si on est 22 avec des victoires, je vais dire 18 sans victoire.
24.
Aïe, aïe.
C'est pas le fun, ça, dans ce temps-là.
Non, 24
défaites, c'est pas le fun. Comment tu dis, Marc?
J'étais pour dire, contrairement au la chambre était de bonne humeur à 22 victoires, la mine va être basse pas mal avec.
Exactement.
Avec
exactement. Le plus grand nombre de minutes de punition par un gardien de but en une saison.
Oh, un gardien de but?
Ouais.
Qui ne sont pas portés à avoir ben des plus roches. Oh, regarde. 10 minutes.
76 minutes de punition.
Oh, bah boy!
Méchant
caractère.
Cédric Béliquier en 94 avec les Panthères de Saint-Jérôme. Ensuite, 76, incroyable. Quand je regarde ça, je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Le plus de buts en un seul match.
Oh, Christy.
Par un joueur.
OK. Par un joueur.
Par le même joueur, oui, par le même joueur.
OK, le plus grand nombre de buts, bon, c'est que Daryl Sutter dans la nationale avec 6, ben, je te dirais, ben, regarde, moi, il y allait avec 6, mais je ne sais pas qui, par exemple. Là.
C'est 7. C'est Steve Demers avec les Beaucerons de Sainte-Marie en 94. 7 buts dans un même match. Wow. Et le plus grand nombre de points dans un match, dans un même match, c'est en 95.
Oh, c'est même pas lui.
Avec le national de Joliette. En 1995, un dénommé André Ali avait obtenu 12 points dans un même match.
Aïe, aïe, lui, tu passes de 10e au sur la liste des pointeurs au premier assez vite avec ça.
Ouais, il était déjà probablement premier, puis il a probablement joué contre les Lions de Pierrefonds qui ont accordé 405 dans une même saison.
Forcément. Ouais, ouais, effectivement.
Fait que c'est ça que j'avais pour vous autres cette semaine, Marc. Et la semaine prochaine, on va discuter de l'histoire des franchises dans la Ligue d'Hockey Junior 3 du Québec. Parce qu'on sait que dans notre ligue, il y a certaines franchises qui sont très stables et qui sont là depuis de nombreuses années, comme nous autres, en fait, on est là depuis 13 ans maintenant. Mais il y a certaines franchises où c'est un peu moins glorieux. Donc, on va parler un peu de tout ça, le mouvement des franchises qu'il y a eu à l'intérieur de la Ligue de hockey junior 3 du Québec.
Bien, ça s'annonce super intéressant. Puis, cette chronique-là qu'on vient de faire était super bonne aussi, Marco. C'est le fun d'amener un petit peu de rigolade là, puis de mystère
voilà.
À travers de tout ça. Bien, excellent. Je te passe, je te souhaite, j'y viens, une bonne semaine. Bon, on se revoit la semaine prochaine.
Parfait. Merci, Marc. Salut.
OK, bye.
Ciao.
On termine cet épisode du podcast de l'Iceberg avec notre grand ami Guy Lucier. Comment est-ce qu'il va, Guy, cette semaine?
Hey, ça va bien, la grippe me lâche, puis c'est le fun. Puis toi, Marc, en pleine forme?
Oui, ça va super bien. Regarde, Guy, on va enchaîner tout de suite. Je sais que tu vas nous présenter une entrevue avec Anthony Chicoine, puis je trouve que le lien se fait super bien, parce qu'en début d'émission, c'était Amélie Delobel, avec sa première visite avec nous au podcast, qui a, elle, eu une chronique avec la copine d'Anthony Chicoine.
Hey, c'est le fun, ça! Un beau petit parallèle!
Ben oui, ça se match super bien. Fait que j'imagine que tu avais également la fameuse question « Qui es-tu? » que tu as posée à Anthony.
Et bien sûr, Anthony s'est quand même bien débrouillé avec la question qui suit cette semaine.
Bon, ben excellent. Fait que, regarde, on enchaîne tout de suite avec ça. Puis là, je vais donner un petit hint à tout le monde. Écoutez, peut-être que vous pourriez entendre les mots mystères de la semaine. On écoute l'entrevue.
Bonjour, partisans. Desinouk Guy Lucier avec son entrevue Iceberg de la semaine. Cette semaine, on reçoit un jeune vétéran que j'apprécie beaucoup, notre numéro 17, Anthony Chicoine. Anthony, comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Yes, c'est le fun de pouvoir t'avoir. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi.
Dans le fond, moi, je suis un petit gars de Saint-Dominique, c'est à peu près à 20 minutes d'ici. J'ai tout le temps vécu là. J'ai joué mon hockey, dans le fond, plus à Saint-Hyacinthe, dans les environs. Puis, rendu dans le niveau junior, ben, je suis venu vers Granby. Puis, ça fait 3 ans que je suis ici, puis je trippe tout le temps depuis le début. Là.
Ah, c'est le fun parce que 3 ans avec les Inuk, tu te considères déjà comme un jeune vétéran.
Ouais, ben c'est sûr que plus les années passent, plus que je prends de la place, puis plus que tu connais les vétérans qui sont là, les gars plus vieux, tu sais. Mettons, comme des gars comme Nick Nadeau, je suis rentré en même temps que lui dans la ligue, fait c'est un de mes bons chums dans l'équipe, puis j'aime ça, mettons, gérer les plus jeunes, puis leur donner des. Pas des. Leur donner des.
des bons conseils.
Ouais, c'est ça, des bons conseils.
Tu montres l'exemple, on a dit. Hey, c'est bon. Ton début de saison, Anthony, 3 buts 5 passes pour 11 points. C'est vraiment bien quand même, là, puis tu dois être fier de ça.
Ouais, c'est sûr que je suis quand même fier, mais comme que je dis, c'est tout le temps un plus. Dans le fond, faire des points quand les gars ils me font une pause, puis je score, puis c'est et le but. Dans le fond, je suis content, puis c'est tout le temps des plus. Ou c'est, dans le fond, je prends ça bien content.
Hey, c'est parfait, ça. Et puis, est-ce que tu t'es fixé un objectif pour la saison, personnel ou d'équipe?
Ben c'est sûr que à chaque année on souhaite ramener la coupe. C'est sûr que l'objectif pour moi c'est ça. Personnel, ben je veux être un peu plus offensif que mes dernières années, je te dirais. Mais regarde, je veux faire mon rôle, puis je vais faire casser les coachs à demande, puis on va y aller de même.
Oui. Et puis ton travail sur les unités spéciales, on te voit souvent en désavantage numérique avec ton frère. Vous faites une sacrée bonne job. C'est vraiment le fun de vous voir. Vous êtes-vous parlé ou vous entraînez vraiment ensemble pour ça?
Ben, je te remercie bien moi partant, mais c'est sûr que la communication est quand même plus facile, on dirait. T'sais, j'ai tout le temps vécu avec mon frère et qu'on se connaît vraiment beaucoup. Mais non, on se parle pas vraiment, on y va comme ça y va, puis on suit le planning des coachs, puis regarde, ça marche, fait qu'on est bien content de ça.
Hey, bien, c'est correct. Tu as parlé un petit peu de ton rôle un peu de jeune leader dans le vestiaire. À 19 ans, là, t'as 19, tu joues ta carrière, ta saison 19 ans. Tu trouves-tu que tu as un certain pouvoir de leader dans le vestiaire?
Bien, je te dirais que oui, parce que je m'entends super bien avec les gars de 20 ans. Puis je veux m'intégrer avec eux puis les aider à leader les plus jeunes. Fait que, comme je dis, ça fait 3 ans que je suis ici, fait que je sais comment ça marche, je sais la game comment elle marche. Fait que, si je peux aider le plus de monde possible, ben, je vais être content de même. Là.
Hey, bon, c'est le fun, ça. Parle-nous un peu du dernier week-end. On a joué contre Saint-Jérôme vendredi et puis Chambly dimanche. Ça n'a pas été quand même du tout cuit. Ça a été des matchs assez difficiles.
Ouais, ben c'est sûr que ça a été quand même difficile à Saint-Jérôme. Ben contre Saint-Jérôme, on a mal commencé, mais on a quand même mieux fini. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, qu'on gagne peut-être de plus, mais regarde, on prend les 2 points, c'est bien correct. Puis contre Chambly, ben, ça a été pas mal plus le contraire. Je trouve, personnellement, je trouve que ça a moins bien fini, mais regarde, on sort encore avec les 2 points, puis on passe au prochain week-end, puis on sait qu'est-ce qu'on a travaillé.
Excellent. Aujourd'hui même, vous prenez l'autobus tantôt, vous allez jouer ce soir
À Saint-Jérôme.
T'entrevois le match comment? Un peu comme vendredi passé ou...
Ben, c'est sûr que, tu sais, on sait qu'est-ce que l'équipe est capable de donner le bord qu'on les a affrontés le week-end dernier. Donc, j'espère qu'on va mieux commencer puis que, tu sais, ça va être une bonne game. Là. Ça va être un très bon match à soir puis on va sortir de là avec les 2 points.
Puis, vendredi et dimanche, gros test.
Ouais.
On reçoit les Cobras de Terrebonne et le Collège français de Longueuil. Ça sera pas un week-end très facile.
Non, ça va être une grosse fin de semaine, mais regarde, c'est des tests, puis il faut les réussir. Dans le fond, on est bon, puis il faut continuer de même. C'est sûr qu'il y a des choses à changer, puis les gars le savent. Il faut juste mieux jouer, puis d'après moi, on est capable de débattre, mais comme que je dis, on va y aller un match à la fois, puis on va voir ce que ça va donner.
Hey, c'est excellent. As-tu un message à faire aux partisans des Inuits? Comment tu trouves l'ambiance cette année à date?
Bien, c'est sûr qu'en rajoutant toutes les petites affaires, mettons la salle de jeu pour les jeunes, on dirait qu'il y a plus de jeunes à nos games, puis tu sais, il y a le monde, mais c'est sûr que tout le monde rêverait que l'aréna soit pleine un jour. Mais regarde, je suis bien content que le monde vienne, puis il encourage, comme le week-end dernier, il chantait l'hymne national. On n'est pas habitué de voir ça quand la chanteuse n'est pas là, puis c'est les partisans qui chantent, ça a tout été un beau
moment. Oui, ça a créé un beau moment, c'était le fun, oui. Ben finalement, Anthony, ben regarde, on va finir ça avec la petite question qui tue. Et puis, c'est juste une petite blague, quoi, puis on s'amuse avec ça. Je sais pas si tu as déjà été à Disneyland.
Non, jamais.
Tu n'as jamais été à Disneyland. Tu as sûrement vu des photos de Mickey Mouse avec les enfants.
Ouais.
Mais la question qui tue, d'après toi, quand on prend une photo à côté de Mickey, est-ce que l'homme à l'intérieur de Mickey, il sourit?
Je te dirais que oui. Je pense que oui.
Ouais?
Ouais.
Mais comment qu'on fait pour le savoir, ça?
On le saura.
On le saura jamais. Hey, c'est bon, Anthony. Super la fun. Une belle entrevue. Je suis content de t'avoir parlé. Et puis, m'a te laisser aller te préparer à descendre à Saint-Jérôme.
Parfait.
Et
merci. Puis, merci bien, gros.
On se revoit bientôt.
Parfait.
Hey, merci, Anthony. Super. C'est beau.
Superbe entrevue encore une fois, mon cher Guy, avec notre ami le rough and tough Anthony Chiquan.
Eh bien oui, Anthony, regarde, c'est un bon kid, il est super gentil, puis on a eu du plaisir à faire l'entrevue avec Anthony, c'était vraiment plaisant.
Ben oui, c'est un bon guerrier ça pour les Inuks, puis c'est un bon jeune homme également. Qu'est-ce que tu as pour nous comme entrevue la semaine prochaine, Guy?
La semaine prochaine, je rencontre un vétéran, un jeune homme vraiment sympathique, Nicolas Nadeau. C'est sa dernière année junior, lui-ci, et puis ça va être le fun de rencontrer Nicolas.
Good, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il va avoir à nous dire, ce fameux Nicolas Nadeau. Ben, regarde, Guy, je te souhaite une excellente semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
Hey, merci, Marc, puis toi aussi, bonne semaine, puis on se revoit bientôt.
All right, bye-bye.
Bye.
Ceci termine un autre podcast de l'Iceberg, la gang. Je tiens à remercier nos collaborateurs qui nous fournissent de l'info et d'excellentes entrevues à toutes les semaines et en espérant bien sûr que vous l'appréciez également. Et avez-vous entendu le mot mystère ou les mots mystères? Faites-nous le savoir dans un commentaire de la page Facebook des Inuks. Et bien sûr, on vous invite à suivre toutes les activités de vos favoris via Facebook ou bien par leur site web au www.inuk.ca, via leur compte Twitter et j'imagine qu'Instagram fait partie du lot également, ou bien via le site de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. On se donne rendez-vous même heure, même poste la semaine prochaine, fidèles partisans des Inuks, pour un autre épisode de l'Iceberg. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, du bon hockey et, comme d'habitude, soyez prudents.